Donc j'avais à cœur de vous parler à partir de Matthieu 14. Tout le chapitre, mettrait le traverser assez rapidement. La première partie du chapitre 14, je ne vais pas vous lire, mais je vous laisse le lire, c'est la mort de Jean-Baptiste. Et la mort de Jean-Baptiste, il avait dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il a vraiment diminué jusqu'au bout. Et à cause du, ce que j'ai envie de dire, du caprice d'une femme qui a voulu vraiment la tête de Jean-Baptiste. En fait, Hérode était adultère avec la femme de son frère, et la femme de son frère avait voulu, voulait absolument que Jean-Baptiste meure, ce qui n'était pas tout à fait le cas d'Hérode. Et elle s'est servie de sa fille qui a dansé. Alors j'imagine une danse du ventre d'une jeune fille de 15-20 ans, ça devait être pas mal. Et puis Hérode était tout retourné, tourniboulé, dirons-nous, et tellement que il a dit « je t'accorde, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tu l'auras ». Et puis ça a été la tête de Jean-Baptiste. Et voilà, Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste. Il faut se rappeler que Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de la famille très proche de Jésus. Alors, soit c'était sa tante, donc ce serait son cousin. C'est vraiment quelqu'un de très proche. Et il faut se rappeler que quand Jésus, quand Marie a visité sa parente Élisabeth, les deux enfants se sont fait coucou dans le ventre de leur maman. Et Élisabeth a tressailli de joie à la salutation de Marie. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression, c'est que les deux gamins se sont dit « Hello, bonjour dans la vie, nous voici ». Et puis après, ils ont eu des chemins différents, mais Jean était là pour préparer le chemin du Seigneur jusqu'au bout. Et après, il a fallu qu'il diminue jusqu'au bout aussi. Donc après, on a, vous le verrez, la multiplication des pains. Et la multiplication des pains, c'est Jésus a essayé de se mettre à l'écart, parce que la mort de Jean-Baptiste, ça lui a fichu un coup, hein, et il aurait bien voulu avoir du temps pour faire son deuil, pour être consolé par son Père céleste, pour remettre cette souffrance à son Dieu. Et donc il s'éloigne et il se dit, là au moins je vais pouvoir, en plein milieu de la mer, je vais pouvoir m'évader. Puis progressivement on gronde un bruit qui se rapproche, un bruit. Et ce bruit, c'est la foule qui arrive. La foule des éclopés, la foule des infirmes, la foule des gens qui ont des démons, etc. Et là, Jésus va atterrir très vite sur la terre et puis il va guérir. Je ne sais pas si vous vous imaginez, il vient de perdre un être cher. On a envie, c'est fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Non, la foule est là et il a compassion. Et il a tellement compassion qu'il va tous les guérir. Pour moi, ça m'émerveille. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où on peut être dans cette situation où Jésus est, où il y a beaucoup, beaucoup de souffrance dans nos vies et où on est quand même amené à être témoin. Alors, pas comme Jésus. On va être quand même chacun à sa hauteur, hein. Mais quand même, il y a des fois où Dieu, c'est quand on est faible que nous sommes forts en lui. Et puis, cette foule, les disciples commencent à se dire, il se passe quelque chose, là, ils sont de plus en plus nombreux, ça commence à crier famine, nous aussi on a faim, on voudrait bien se restaurer. Et donc, les disciples viennent dire, tire le pan de la tunique de Jésus, lui disent « Jésus, faudrait peut-être que tu renvoies la foule, parce que vraiment là, ça craint, c'est craignos, comme on dirait aujourd'hui. Tu te rends compte, on ne sait pas les compter, mais quand même, hein, y en a un paquet. Après, on nous racontait qu'il y avait 5000 hommes, il les a mis par 50, je crois. On voit ça dans un autre évangile. 5000 hommes, donc 100 fois 50, et les femmes et les enfants. Donc vous multipliez, puis vous trouvez le nombre. Eh bien, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et le Seigneur, parfois, nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous avez dans vos mains, dans vos cœurs, de quoi nourrir ceux qui sont autour de vous. Je vous donne ce qui est nécessaire pour bénir. Pour moi, c'est important. Et donc, voilà, Jésus va bénir le pain et le vin, et ça va se multiplier, et puis il restera même des morceaux. Et ces morceaux, ben, il ne faut pas les perdre. Donc on les met dans les corbeilles pour qu'ils soient gardés. Jusqu'au bout, Jésus fait attention à ce qu'il donne. C'est cadeau. Donc un cadeau, on ne le jette pas, on ne le met pas, c'est pas intéressant. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux à Noël, il y en a peut-être qui vous plairont moins que d'autres. S'il vous plaît, vérifiez que derrière le cadeau, il y a une intention, il y a de l'amour. Et puis après, Jésus est exténué, tout le monde est rassasié, les disciples se sont calmés, ils ont eu ce qu'ils voulaient, leur miracle à eux, la multiplication du pain, ils n'ont pas dû se bouger pour courir dans une ville pour en chercher des tonnes et des tonnes. Jésus va à nouveau sur une barque. Non, il va à l'écart. Et il oblige ses disciples, allez, prenez une barque, montez dans une barque et passez sur l'autre rive. Je vous y rejoindrai. Alors là, on sent que Jésus, après tout ce temps où il a donné, il a besoin de se retrouver. Il a besoin de calme. Et ce Jésus, il est tellement en communion avec son Père qu'il reçoit la bénédiction, qu'il reçoit de son Père la consolation dont il a besoin. C'est vraiment comme ça, je l'imagine. Dieu est proche de son Fils dans de tels moments. Et puis, lui, il est un peu à l'écart sur une montagne, mais l'eau, le lac est en train de se secouer. Et puis les disciples sur le lac, ça commence à bouger un peu, beaucoup, passionnément, de plus en plus, voilà. Ça bouge. Et là, Jésus va faire quelques pas d'une marche inusitée. Il va marcher sur les eaux. Et Jésus va marcher sur les eaux pour les rencontrer, parce que pour lui, rien n'est impossible. Il est le maître du temps et de l'espace. On verra après sa mort et sa résurrection. D'un seul coup, les disciples sans Thomas sont dans une pièce, et d'un seul coup, on se retrouve avec Jésus au milieu. Il est passé à travers les murs, et ça plusieurs fois. Donc Jésus est vraiment pour moi le maître du temps et de l'espace. Il est le maître des éléments. Et il peut marcher sur l'eau, il ne va pas faire plouf. Pierre fera plouf plus tard. Mais Jésus en est tout à fait capable. Et ça, c'est important de nous rappeler. Rien n'est impossible à notre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, rien n'est impossible à notre Dieu. Et donc, notre gentil, mais un peu fanfaron Pierre, que nous connaissons, moi je, il crie, « Seigneur, si c'est vraiment toi que je marche sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. Come on. You can go. Tu peux venir. » Voilà, c'est de l'araméen. Et voilà. Et Jésus va se retrouver avec ce Pierre à quelques mètres. Et puis d'un seul coup, Pierre, il regarde autour de lui. Et puis il voit que les vagues, bah, peut-être qu'il marche sur l'eau, mais peut-être que les vagues lui lèchent un peu les pieds, ou j'imagine, on peut tout imaginer. Il regarde, il a peur, et il dit, sauve-moi. Moi j'imagine qu'il boit la tasse. Le sauve-moi, c'est après peut-être avoir bu la tasse, ou être déjà en train de s'enfoncer. Et il y a des moments où on va, comme Pierre, marcher sur les eaux. Et on va être un peu comme sur un petit nuage. On va aller au-delà de ce qu'on est capable de faire d'habitude. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prêcher au micro vont se mettre à le faire. Ceux qui n'ont pas l'habitude de témoigner vont se mettre à témoigner. Voilà. On peut dépasser nos limites, et Pierre, pendant un temps, avec l'aide de Dieu, a dépassé ses limites. Puis il a regardé à sa circonstance, il dit, oh là là, le vent est fort, on est encore loin de la rive, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai l'impression que Jésus est loin, gna gna gna. Bon, chacun notre cinéma intérieur, il peut être très très convaincant. Notre cinéma intérieur peut être très convaincant. Et il vient à bout, parfois, de notre foi. Donc c'est important de veiller à ce que notre cinéma intérieur ne gâche pas tout. Alors Jésus va tendre la main, et miraculeusement, il accroche Pierre, et ils se retrouvent dans la barque tous les deux. Et alors, le 11... Je vais vous dire ça parce que c'est très important. Je crois que c'est le 12 novembre 2011, dans les pensées précieuses dont a parlé Josette, j'ai lu « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et en fait, c'est ce verset qui m'a interpellée. Dans cette version-là, en général, j'ai du mal avec certaines traductions des pensées précieuses, parce que comme c'est du mot à mot, parfois anglais, c'est pour nous parfois un peu du petit chinois. Mais là, j'ai beaucoup apprécié. Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Colette de petite foi, pourquoi as-tu douté? Christophe de petite foi, pourquoi as-tu douté? Là, il ne nous dit pas peu de foi, pas de foi, mais petite foi. C'est-à-dire que la foi, elle est là. C'est comme le lumignon qui fume. Ça existe, mais ça a besoin de grandir. Notre foi en Dieu, elle est là depuis notre conversion, depuis le jour où on a dit oui, et elle se ranime à chaque fois qu'on dit à nouveau « oui, Seigneur ». Et puis, il y a des fois où les circonstances, les tempêtes, les raz-de-marée intérieurs dans nos vies, ben, ça fait des dégâts. Et puis notre foi, au lieu d'être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, se retrouve à être de quelques millimètres. Et Dieu, Jésus nous dit, mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutes-tu? Ne sais-tu pas quel est ton Dieu? Et en même temps, il dit, regarde tout ce que j'ai déjà fait. Jésus dit à Pierre, d'une certaine manière, je l'entends dans un murmure dire à Pierre, « Pierre, Pierre, rappelle-toi tous les miracles que tu as déjà vus. Quand je vous ai envoyé deux par deux il y a quelques semaines, vous avez fait des miracles. Je vous ai envoyé avec mon autorité, vous avez fait des miracles. Et la multiplication des pains. Tu te rappelles? Vos 7 pains, vos 5 pains et 2 poissons, comment je les ai multipliés? 5 pains et 2 poissons. pas grand-chose hein, pour nourrir 5000 plus les femmes et les enfants. C'est pas grand-chose. Et Dieu l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus peut aussi dire à Pierre, mais Pierre, rappelle-toi. Rappelle-toi tout ce que je t'ai déjà fait dans ta vie. Rappelez-vous ce que j'ai fait dans votre vie. Et faites en sorte que votre foi ne soit pas au minimum. Pour moi, c'est important. Parfois, il nous faut porter des projets pendant des semaines, des mois, des années, et on ne voit rien venir. Parfois, on rame avec les circonstances, parce qu'on ne voit rien venir. Parfois, on voit une église ici qui régulièrement a grandi, a diminué, a grandi, a diminué. On a fait des cours alpha, puis les gens sont partis ailleurs et on les bénit. Et puis, on n'a rien vu venir pour nous, et puis on aurait pu se décourager. Et on peut se décourager. Et chacun d'entre nous, on a des fardeaux sur nos cœurs. Et j'aime bien ce mot fardeau, parce que c'est le fardeau léger de Jésus. C'est-à-dire que c'est ce qu'il nous a donné à porter avec sa grâce. Mon fardeau, je le connais. Je ne connais pas le vôtre. Mais je sais ce qu'il m'a donné. Et je sais aussi le joug qu'il a posé sur moi. Et c'est un joug léger face à bien d'autres jougs que j'ai portés qui n'étaient pas justes et qui étaient loin d'être légers. Comme je n'ai pas eu beaucoup de temps, je n'ai absolument pas lu mes feuilles, mais je n'ai pas travaillé pour du beurre. Je voudrais vraiment, c'est qu'on puisse peut-être réfléchir à comment booster notre foi quand ça ne va pas. Qu'est-ce qui va nous faire ne pas nous rétrécir comme, je ne sais pas moi, rétrécir. Et puis, je vous lis quelques versets. Dans Matthieu 15, donc juste après ça, à la femme cananéenne qui a crié à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, car ma fille est tourmentée par le démon. » Jésus d'abord ne répond pas et alors elle insiste. Elle se prosterne devant lui en disant, « Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. » Au bout d'un moment, Jésus se tourne vers elle et lui dit, « Ô femme, ta foi est grande. » Et il parle de la grandeur de sa foi. Qu'il te soit fait comme tu le veux. C'est pas merveilleux ça? Il ne touchera pas l'enfant, il ne fera rien du tout. Mais il utilise la foi de la femme et il lui dit, à chaque fois que tu utiliseras ta foi, ben, tu auras ce que tu veux, avec ma grâce, si c'est dans ma volonté. Dans Matthieu 8, on voit Jésus qui parle au centenier, il lui a amené son serviteur, non, il lui a parlé de son serviteur qui est à l'article de la mort, et le centenier va avoir comme réponse, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur est guéri. « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » La foi de ce centenier romain était importante. Il avait foi. À la femme pécheresse venue mettre du parfum sur ses pieds, Jésus va dire, « Ta foi t'a sauvée, vas en paix. » De la même manière, à la femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, Jésus qui le touche dans la foule parce qu'elle est impure, elle n'a pas le droit de l'approcher. Jésus va dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Au cours de la guérison d'un démoniaque, Jésus va dire à ses disciples, « C'est à cause de votre petite foi que vous n'arrivez pas à chasser le démon. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ces montagnes, à cette montagne, transporte-toi dans la mer, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Et là, je vous laisse sur ce dernier verset dans Luc 17, verset 15, les disciples qui disent « Augmente en nous la foi ». Est-ce qu'on peut simplement prendre quelques instants et dire au Seigneur, montre-moi le niveau de ma foi. Et dire, je veux que ma foi augmente pour le salut des personnes de ma famille, pour mes enfants. Je veux que ma foi soit plus grande, soit plus solide, pour que tout ce qui est abîmé autour de moi puisse être réparé, pour tout ce qui est abîmé en moi puisse être vraiment guéri, restauré. Augmente en nous la foi, Seigneur, pour que ce quartier des roseaux connaisse ta lumière, te reconnaisse et ait envie de toi. Que tous ces gens qui sont passés dans notre église, qui sont restés quelques années, puis qui comme si de rien n'était, que tous ceux qui ont trouvé un lieu où louer le Seigneur, qu'ils y restent, mais que tous ceux qui se sont éloignés et qui n'ont plus rien, que notre foi, que notre prière les fasse venir dans un lieu de culte, le nôtre ou un autre, mais qu'ils soient bénis. Merci Seigneur d'entendre nos prières. Merci d'y répondre rapidement, de tendre ta main comme tu l'as fait pour Pierre. Merci Jésus. Merci de ranimer notre foi, de la faire grandir, grossir, mais que notre orgueil diminue, que surtout notre foi ne grandisse pas en même temps que notre orgueil.